Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des experts, des spécialistes, des scientifiques, des chercheurs. Bien sûr, on ne va pas parler de la science, de la biologie, ni des maladies infectieuses, mais qui sont d'actualité. Mais on revient sur notre sujet, qui est l'urbanisme et l'architecture. Alors, disons que la science s'est complexifié depuis, on peut dire, un siècle, deux siècles. Et aujourd'hui, le savoir scientifique est divisé en disciplines, et puis ces disciplines sont divisées en branches qui elles-mêmes sont subdivisées en spécialités, alors que ce soit pour la biologie, la médecine, mais c'est pareil pour à peu près pour tous les champs scientifiques. Alors, et il est tentant sur ce modèle de buissonnement complexe qui est dû, bien sûr, au développement du savoir, qui fait que le savoir ne peut pas être possédé par quelques personnes. On est obligé d'avoir une branche, une sous-branche d'une discipline, même si les gens ne sont pas des imbéciles et ils ont des visions globales de la discipline qui est la leur, mais tout de même, on est dans ces subdivisions. Alors, la tentation qui est forte, c'est d'appliquer ce schéma, qui est un schéma, on peut dire, obligatoire, à tous les autres champs, et ceux qui ne sont pas forcément, qui ne relèvent pas de cette croissance de la science et de la croissance de la connaissance. Alors dans le domaine, par exemple, qui est le nôtre, de la ville, du territoire, et bien sûr, le savoir n'ont pas bougé. Ils sont d'ailleurs, on peut dire que même si on était mauvaise langue, on pourrait dire que les villes du passé sont plus admirables et admirées et visitées que les villes de présent. Donc on n'est pas dans un progrès et d'une complexification et d'une qualité supposerait que on doit avoir un grand nombre de spécialistes, puisque avant les résultats étaient plus brillants et justement il n'y avait pas le foisonnement que nous avons aujourd'hui. Alors ça, c'est, me semble-t-il, assez important, et surtout qu'aujourd'hui, les métiers fondamentaux, comme par exemple celui d'architecte, disparaissent sous une armada de bureaux d'études, d'ingénieurs, de spécialistes. Alors aujourd'hui, on est surtout sur les disciplines environnementales, dans lesquelles foisonnent des gens qui souvent s'autoproclament chercheurs, spécialistes, et on voit arriver dans les débats, dans les colloques à la télévision, des gens qui sont spécialistes. Alors, les spécialistes, c'est assez, c'est souvent, ce n'est pas très borné dans des disciplines qui relèvent justement du jugement humain, qui ne sont pas dans une preuve scientifique, mais qui, au cours des âges, on ne peut pas dire que ça se complexifie plus. Alors, la tentation, justement, de reprendre ce schéma de fragmentation a deux inconvénients. D'abord, le premier, c'est que on a de moins en moins une vision globale des problèmes, puisque tout est scindé en disciplines. Ce qui est très embêtant, parce que les décisions doivent être prises globalement, et quand on a une armada de spécialistes, on a des équipes pluridisciplinaires, mais on ne sait plus très bien qui commande, comment se font les décisions. Et le deuxième aspect, et qui me paraît, lui, alors, le plus dangereux, c'est que la spécialisation, entre guillemets, introduit un discours qui est souvent mystérieux, avec des mots codés, et que l'on perd le langage collectif. Et en perdant le langage collectif, on perd justement la relation fondamentale entre le décideur, qui dans nos démocraties est un élu, et qui jusqu'alors avait un pouvoir, on peut dire large, et notamment les élus locaux, qui avaient une décision, c'était le premier sujet de décision, c'était justement le territoire et la manière dont on l'organise. Et aujourd'hui, face à l'armada décisionnelle, on se trouve devant des spécialistes de l'eau, de la terre, de la biologie, du réchauffement climatique, de l'isolation, des transports, la liste est à l'infini. Et donc, on n'a plus justement le débat, puisque, comme je vous disais, le langage devient complexe et n'est plus sujet à un débat public, puisque on a des sigles. Quand vous regardez ce qu'on appelle, et je reprends en terme, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, c'est fait de plus en plus de chiffres, de couleurs, de sigles. C'est totalement incompréhensible, donc ça veut dire qu'il y a une perte du pouvoir démocratique, puisqu'on dit bah, ça se fait au nom de la science, de la technostructure. Donc c'est un sujet qui est assez grave, et j'écoutais là dernièrement, où je regardais une information officielle. Alors évidemment, c'était pas sur le territoire, c'était au sujet de la crise du Covid, et la communication gouvernementale dit on peut débattre de tout sauf des chiffres. Alors ça, c'est assez sidérant d'ailleurs comme parole, parce que peut-être que les chiffres du Covid sont des chiffres qui sont tamponnés au sceau de la vérité, j'en doute fort, mais il est évident que les chiffres justement qui sont amenés aujourd'hui dans tous les domaines, souvent on ne cite pas les sources, on ne sait pas comment ils sont calculés, et nous avons une profusion de données chiffrées et qui justement ne sont pas vérifiées, vérifiables, et elles sont annoncées. Alors vous avez entendu, si vous avez écouté des chroniques précédentes, j'avais parlé du département qui disparaissait sous le béton, et j'avais montré que s'il avait disparu sous le béton, on se trouvait dans le département avec des populations qui étaient je crois, de 500 millions, et que si ça a été vrai depuis, cette chose-là était vraie depuis la fin de la guerre, eh bien, on serait à 1,5 milliard de population dans les seuls départements qui auraient été couverts et qui auraient disparu sous le béton. Donc, c'est des données qui sont reprises d'une manière, on peut dire, officielle. On ne sait pas quelle est la source, et surtout, personne ne fait le calcul, qui est un calcul qui ne demande pas de grand ordinateur, qui se fait en 2 minutes avec une feuille et un crayon. Donc, il y avait aujourd'hui un article dans l'Express de cette semaine. Et il y avait également aujourd'hui dans le journal du dimanche une interview du candidat écologique sur des chiffres. Donc alors on reste toujours dans notre domaine, on parle de l'aménagement du territoire, et on parle donc lié au transport de la pollution. Et donc le candidat Jadot dit que il faut, à la réponse du journaliste qui l'interrogeait sur le fait que vouloir réduire les transports ou notamment en faisant augmenter le prix de l'essence ou en supprimant le diesel, enfin toutes les mesures que les écolos recommandent. Et Jadot, pour se défendre, disait que bah, effectivement le transport était une grande source de pollution, et il disait que ça tue 67 000 personnes par an. Alors ça veut dire que comme il meurt 620 000 en je crois l'année dernière, enfin il y a 2 ans, donc indépendamment de Covid, il y a eu 620 000 décès en France, ça veut dire qu'une personne sur 10 meurt de pollution. C'est un chiffre sidérant. Ça voudrait dire qu'en un siècle, la population française d'aujourd'hui serait morte, l'équivalent de la population française d'aujourd'hui serait morte de pollution. C'est absolument effarant. Est-ce que vous connaissez des gens qui meurent de pollution? Donc personne ne dit, mais d'où viennent vos chiffres? Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? Non. Voilà, c'est affirmé ainsi. Alors, il y avait également un article que je vais développer dans la deuxième partie de la chronique, qui s'appelle « Le retour du pavillon, catastrophe climatique ». Donc c'est dans l'Express de cette semaine. Donc on va marquer une pause musicale et on va reprendre sur cet article de l'Express. Prenons sur le retour du pavillon, catastrophe climatique, dont c'est écrit par un chercheur, donc c'était la première partie de l'exposé d'aujourd'hui, ce chercheur qui est chercheur à la London School of Economics. Alors c'est assez curieux d'ailleurs que les recherches sur le climat sont essentiellement, vous avez vu les propos de Jean Tirole pour l'économie, l'école d'économie, non, Toulouse School of Economics, pardon, puisqu'il faut le dire en anglais. Et d'ailleurs, la candidate contre Yannick Jadot, dont je parlais tout à l'heure aussi, est professeur d'économie. C'est assez curieux parce que, bon, il ne s'agit pas d'une science, l'économie, et que justement, on est les chercheurs qui sont dans ce champ, attendu qu'il s'agit de quelque chose qui est extrêmement sur la physique du globe, enfin, on est dans autre chose. D'ailleurs, à ce sujet, quelqu'un que je connais, qui est un professeur à l'université de Tokyo, spécialiste de la littérature française ancienne, quelqu'un d'extrêmement érudit et brillant, me disait que l'ambassadeur français, c'était pour la COP21, était venu faire du recrutement pour la COP21 à l'université de Tokyo. Et il n'était pas, il avait été très surpris parce que lui, qui est évidemment dans un champ littéraire, il pensait que ce sujet du réchauffement climatique était un sujet scientifique. Eh bien, il n'est pas allé du tout voir les physiciens dans les champs scientifiques. Il est allé à l'école de communication et à l'école de commerce. Et donc, on rejoint mon histoire d'économie. Alors, bon, alors, on a notre économiste qui est spécialiste, donc qui fait un parallèle, enfin, qui fait une information sur la situation aujourd'hui due au Covid, où on a un retour du pavillon. Alors, je tiens à vous rappeler ce que je dis souvent, il ne s'agit pas du tout d'un fait nouveau, il s'agit d'une tendance qui est depuis plusieurs décennies et qui est une dispersion sur les territoires et on continue à croire. Ce matin, c'était pareil. Dans l'esprit public, on parlait de l'urbanisation qui continue en France. Entendu qu'effectivement, c'est exactement le phénomène inverse qui est une dispersion sur le territoire, phénomène qui est amorcé depuis 50 ans, c'est-à-dire la période de l'exode rural étant terminée vers les années 75, on a ce phénomène de dispersion du territoire qui date de 50 ans, mais on continue à nous dire que c'est l'urbanisation croissante. Bon, on comprenne qui voudra. Donc, les chiffres sont têtus parce que il y a quand même des réalités et on ne peut pas, pour revenir à l'histoire de la propagande officielle aujourd'hui du gouvernement sur on ne discute pas des chiffres, et bien si, il faut discuter des chiffres parce que les chiffres, on peut les tordre dans tous les sens et dans le cas présent, notamment sur ces problèmes de territoire, ben, on se trouve justement avec des inventions, des fake news, je ne sais pas comment le dire, en tout cas des chiffres qui sont totalement fous. Alors, le retour du pavillon catastrophe climatique. Alors, pour en revenir aux chiffres, c'est assez curieux de voir la manière dont il parle. Il dit, notamment, ce chercheur, que, alors là, les chiffres sont extrêmement précis. 28% du CO2 qui est produit par la France est dû au transport des populations et 24% pour le logement. Alors ça, je trouve, moi, des chiffres d'une telle précision pour des choses aussi complexe et aussi difficile à saisir, parce que il y a une interaction de tellement de phénomènes que je vois pas comment on peut avoir des calculs alors qu'on donne à la louche, on dit un tiers, deux tiers, je ne sais pas quoi, mais 28, 24, mais comment peut-on calculer cela? Attendu que c'est tellement multifactoriel que c'est totalement insaisissable. Et alors, par contre, et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce même chercheur entre guillemets développe des théories d'urbanisme sur la nécessité de densification dans les centres-villes ou à l'extérieur des centres-villes, et que le pavillonnaire est un malheur pour la planète, pour la France et pour les populations. Par contre, là, il n'y a aucun chiffre. Alors, il n'y a pas de données chiffrées justement sur l'urbanisation, il n'y a pas de données chiffrées sur les densités, et on est justement en phrase périphrase sur les manières de densifier. Alors, il dit que le pavillon, alors la maison individuelle, je n'aime pas trop ce mot du pavillon, c'est le pavillon de chasse, bon, le pavillonnaire, qui est quand même quelque chose de très négatif. On peut parler de maison familiale, on peut parler d'habitat individuel, puis après il y a l'habitat collectif, il y a un immeuble. Ce sont des choix nécessaires, je pense, qui sont vieux comme le monde, et certainement tout à fait nécessaire que nous ayons cela. Sur un plan des résultats de densification, le sujet est bien plus complexe que ce qu'il semble dire, parce que ce qu'il dit, c'est que le pavillon, pour reprendre son terme, est très 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 peu dense, et que justement la densité, c'est les immeubles. En fait, la chose n'est pas aussi tranchée que cela. Alors, il est évident que si vous avez des terrains de 10 000 m², vous avez un paysage qui est totalement autre. Aujourd'hui, on construit dans des groupements d'habitations aussi, avec des jardins et de l'habitat individuel, qui peut avoir une densité qui, au final, est à peu près égale en densification. Bon, maison en bande, habitat groupé, on arrive avec de l'habitation avec des immeubles de 3 à 4 niveaux, qui, forcément, si on veut respecter les réglementations, et c'est pas si on veut, en fait, les réglementations sont obligatoires, c'est-à-dire que les pièces doivent avoir une certaine durée d'ensoleillement quotidien. Donc, pour cela, il faut que les immeubles soient écartés, c'est-à-dire que la ville médiévale, qui est, par exemple, à Toulouse, la partie qui est la partie Saint-Rome, est une partie très très dense, et on arrive à des coefficients d'occupation du sol de 3 ou de 4, certainement. Mais pour revenir à ce coefficient d'occupation du sol des lotissements ou des grands ensembles ou des petits immeubles mis les uns à côté des autres, on a à peu près le même coefficient. Par exemple, Andromède, qui est une mixité de type de logement, est à 0,2, pareil que le Mirail, 0,2, et les zones de banlieue pavillonnaires sont à la même densité. Donc, les choses ne sont pas aussi simples que ce que croit notre chercheur. Alors, il donne des chiffres extrêmement précis sur des données invérifiables, mais là où justement on peut le vérifier. Ce que je vous dis, c'est des données accessibles facilement, et de plus, vous savez, c'est pas très compliqué à calculer. Vous prenez les Google avec les mesures, vous prenez la surface et vous pouvez faire le calcul avec les voies. Bon, c'est des choses que, évidemment, tous les professionnels savent faire, mais c'est à la portée de tout le monde de le vérifier. Donc, on n'est pas dans des choses extrêmement mystérieuses. On est dans des données accessibles et vérifiables. Donc, c'est d'autant plus curieux que nous avons ces données qui sont vérifiables, et on a justement des idées qui sont répétées en permanence et sans aucun débat et affirmées comme vérité. Par exemple, il reprend ce que dans son texte, Un tissu urbain dense favorise la proximité entre logement, lieu de travail et commerce. Ben, le problème, c'est que c'est pas le tissu urbain dense, il favorise si le travail est à côté. Mais les gens, quand ils choisissent d'acheter un logement, d'abord, le couple qui travaille ne travaille pas forcément au même endroit, et même la plupart du temps jamais. La plupart du temps, ils travaillent pas au même endroit du tout. Et le rapport entre la proximité du travail peut évoluer. Et puis, il y a aussi des nécessités de déplacement. Quel que soit le mode d'habitat que l'on a, il y a les écoles maternelles, les lycées, les collèges, l'université, au niveau études, avec les enfants. Donc il y a une complexité, puis il y a évidemment après les loisirs, et puis il y a les week-ends, etc. Enfin, de dire qu'on se déplace infiniment moins dans les habitats denses que dans les zones pavillonnaires. Alors, je ne suis pas pour dire les zones pavillonnaires, c'est l'idéal. Entendez-moi bien, il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un système. Simplement, la qualité architecturale, ça peut être sinistre en immeuble, comme ça peut être sinistre en pavillonnaire, et c'est une autre affaire, c'est une affaire d'architecture, mais là, on parle de choix urbanistiques, et ces choix urbanistiques ne peuvent pas être faits sur des données qui sont falsifiées, qui sont totalement fausses. Attendu que les déplacements, et il y a des études du CREDOC qui montrent que les déplacements qui sont faits par les différents types d'implantations par les Français sont à peu près les mêmes, parce que, comme j'étais en train de vous dire, les gens se déplacent pour les loisirs, pour les visites amicales, familiales, et puis on ne reste pas dans une relation qui est la relation de l'ouvrier du 19e siècle qui habitait près de la mine et qui allait donc du logement à la mine, sa femme restait à la maison, Et les enfants avaient l'école à côté. Évidemment, une fois l'école terminée, ou du moins le certificat d'études, ben, ils devenaient mineurs. Et donc, il y avait l'école, l'église et l'usine. Ou la mine, dans ce cas-là. Enfin, c'était l'usine ou la mine, c'était le schéma ouvrier. Et évidemment, là, on avait une optimisation au niveau des transports. Donc, ce que dit notre chercheur entre guillemets, c'est que avec ce mode de densification, enfin qu'il rêve, on peut se déplacer en vélo et donc on n'a plus besoin de voiture. C'est magnifique et l'écologie a gagné, donc la planète est sauvée. Il n'y a plus de carbone qui est fourni par les déplacements par les voitures, parce que tout se fait en vélo. Bon, on avait parlé de la ville du quart d'heure et l'escroquerie intellectuelle que c'était, parce que en prenant au minimum d'une famille, on se trouvait, je vous avais dit, plus de 2 heures de marche à pied avec le quart d'heure, et je vous avais fait cette démonstration que je pourrais refaire un autre jour. Voilà donc. En fait, la conclusion est que on a des données chiffrées qui sont, me semble-t-il, falsifiées, ou en tout cas, on ne sait pas quelles sources elles ont, ou même les modes de calcul. Et puis, les éléments sur lesquels on peut justement donner des données chiffrées sur les densités, eh bien là, on est sur uniquement de la morale. La densification, c'est vertueux, et la maison individuelle serait la catastrophe climatique. Et ça me paraît pas très sérieux. Voilà, nous allons nous quitter sur cela, et je vais vous souhaiter une bonne semaine. À la semaine prochaine.